Merci Seigneur de demeurer au milieu de nous. Tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous invoquons ton nom Seigneur. Révèle-toi à nous et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Ecclésiaste au chapitre 1er. Ecclésiaste, chapitre 1er. Les questionnements de l'homme. Ecclésiaste, chapitre 1er. Il est écrit ceci, « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. » C'est pourquoi on suppose que c'est Salomon qui a écrit tout ça. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc tout ne vaut rien. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. À quoi ça sert de faire tout ce qu'on veut si un jour on va s'en aller et on va être remplacé par d'autres personnes? Voilà le questionnement du monsieur. Verset 5. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, c'est vrai, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens qui ont un certain âge, ont eu le temps de voir des modes passer et revenir. Et souvent, ils disent, mais oui, mais ça, c'est la mode des années 60. Et ça revient encore. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël, à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. C'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. C'est-à-dire comprendre l'univers, comprendre les humains, comprendre la réalité de la vie, c'est une occupation pénible. Comprendre comment la lumière est faite, comprendre d'où vient la création. C'est une occupation qui a pris la vie de beaucoup de savants, comme on chantait. Ils sont morts avec leurs théories. Et d'autres savants sont venus avec d'autres théories encore. Et Salomon dit, c'est une occupation pénible parce qu'on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. On essaye de dire que les choses ont commencé par une pierre qui a explosé, le Big Bang. Et puis les atomes se sont rassemblés pour faire tout ce qu'on voit là, par hasard. Réfléchissons. Mais même si cela était vrai, d'où vient la pierre qui a explosé avant? Ces gens-là qui rejettent Dieu, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur réflexion. Ils disent que ce n'est pas Dieu qui a créé, c'est une pierre qui a explosé. Mais la pierre elle-même, elle vient d'où? c'est une occupation pénible. Que l'intelligence humaine, parce que Salomon, c'était un serviteur de Dieu. Il a cherché à comprendre par la sagesse les choses de Dieu et les choses humaines. Il a dit, c'est une occupation pénible. Parce que même nous qui croyons en Dieu, notre intelligence ne peut pas tout expliquer. Et donc, quand on veut par notre intelligence comprendre même Dieu lui-même, on est presque confronté à la folie. Parce qu'on va se dire, on va se poser la question suivante. Mais Dieu lui-même, il vient d'où? Qui peut répondre à ça? Donc, on est bloqué. Et quand tu veux forcer cette réflexion-là, ça t'amène presque à la folie. Parce que si tu dis aussi que Dieu vient d'un autre Dieu encore, mais ce premier Dieu-là vient encore d'où? Il y a quelque chose qui bloque. D'où l'origine des suicides. D'où l'origine de la folie dans beaucoup de cas. C'est-à-dire l'homme est face à des choses qu'il ne comprend pas. Salomon a dit, je me suis appliqué. Or, Salomon est connu dans le monde entier comme étant le roi de la sagesse. Mais il a dit, ma sagesse a échoué parce que je n'ai pas compris. C'est une tâche pénible. Aujourd'hui, Einstein, oui, où est-ce qu'il est? Il est dans le tombeau. Max Planck, il est dans le tombeau des grands, les grands physiciens d'autrefois. Ils sont dans le tombeau, Newton, dans le tombeau. Mais la Terre continue à tourner. Le Soleil continue à briller. Tous ces gens-là qui ont fait des théories pour expliquer tout ça, ils sont dans le tombeau. Mais les choses, elles continuent. Salomon a dit, mais toute une vie a passé à chercher à expliquer, mais on meurt, on n'a pas trouvé les explications. C'est une tâche pénible. C'est difficile pour l'homme de comprendre l'univers. C'est difficile pour l'homme de saisir Dieu. Ce qui est encore plus grave, ce Dieu-là se présente à nous comme étant l'Éternel, le Dieu invisible. En plus, il est encore invisible. Donc on ne peut pas le cerner. Salomon a dit, ça a été une tâche pénible qui m'a épuisé. Nous n'allons pas tout lire, mais dans... on lit juste le verset, chapitre 2, au verset 17. Il dit, « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Salomon explique qu'il a eu toutes les femmes qu'il voulait, il a eu tous les jardins qu'il voulait, il a eu toutes les richesses, parce que le texte est long. Il dit, « Mais tout ça, je les ai eus. Après, je vais mourir, c'est mon successeur qui va prendre tout ça. » Pourquoi avoir amassé tout ça pour que mon successeur puisse en jouir comme il veut? Finalement, j'ai fait tous mes efforts pour rien. Et dans un autre verset, il dit, plus tu es sage, plus tu souffres. Mais finalement, à quoi ça sert la sagesse? Un petit exemple. Beaucoup d'étudiants en biologie, dès qu'ils commencent certains premiers cours, quand ils reviennent à la maison, ils ne veulent pas manger ceci, manger cela, parce qu'il y a des microbes dans l'air, des microbes. Les gens qui ne connaissent pas les microbes, ils prennent, ils mettent dans le four, allez, on y va, j'ai faim, je mange. Mais lui, étudiant, mais il faut laver ça comme ceci, Mais oui, mais avant, tu mangeais comment? Mais depuis qu'il a fait la biologie, il commence à voir les microbes partout. C'est ce que Salomon est en train de dire. Donc, ce que je croyais même que ça allait m'aider, l'intelligence... Moi, bien-aimé, j'ai commis l'erreur de vouloir comprendre comment l'avion fonctionnait. Depuis que j'ai compris comment l'avion fonctionnait, j'ai peur dans l'avion. Donc, quand l'avion... Il y a un petit mouvement, je me dis, donc on est à tel stade. Avant, je n'avais pas peur. J'entrais comme un pangolin, tranquillement. Et ça décollait et ça atterrissait. Le jour où j'ai cherché à comprendre comment ça fonctionne, les turbulences, c'est dû à quoi, l'avion, ceci, cela, voilà, c'est quoi le décrochage. Quand j'ai lu toute la question et j'ai compris, à partir de là, la peur s'est saisie de moi. Et depuis, l'avion me fait peur parce que j'ai compris le fonctionnement. Mais avant, j'étais tranquille.
Salomon dit, même l'intelligence qu'on pense construire, ça te crée maintenant des difficultés. La bombe atomique, ça vient d'où? De l'intelligence. On pense résoudre un problème, ça crée d'autres problèmes. Les armes chimiques, ça vient d'où? De l'intelligence. On pense résoudre le problème d'une guerre en utilisant les armes chimiques. Ces armes-là, maintenant, se généralisent partout. Et l'homme se retrouve coincé lui-même. C'est ce qu'il dit. Il a dit que tout ça, j'ai observé, je me suis dit, mais à quoi ça sert tout ça? Ça déprime. C'est ce que Salomon veut dire. Ça déprime. Comprendre la vie, ça déprime. Combien de gens n'ont-ils pas déprimé 10 jours après le mariage? Ils croyaient que la robe allait continuer ou bien le costume. Mais la réalité a rattrapé le monsieur ou la dame. Je croyais, oui, tu croyais, mais le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de force, beaucoup d'intelligence, mais ils n'ont pas d'expérience. Et ils vont gaspiller leur corps. À faire n'importe quoi. Quand vient l'intelligence à 50 ans, il n'y a plus la même force qu'avant. Quand vient la sagesse plutôt à 50 ans, l'expérience, il n'y a plus la même force qu'avant. On se dit, si je pouvais avoir cette sagesse à 20 ans, oui, mais il fallait juste écouter les anciens, ceux qui étaient avant. Non, c'est ça le monde. Le monde est compliqué. Et Salomon a dit, j'ai cherché à tout comprendre, à comprendre ça, mais ça a été une tâche pénible. Il dit au verset 14, on reprend le chapitre 1er, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Tout est vanité, tout est vanité, tout ne vaut rien, et poursuite du vent. À quoi ça sert d'avoir tous les meilleurs cuisiniers du monde si on n'a pas faim? Tout est poursuite du vent. Verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Essayez de redresser un arbre courbé. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Tu as beau connaître tout ce que tu veux. Tu te retrouves dans un fleuve devant un crocodile. Tu vas réciter les livres de physique. Tu te retrouves devant un crocodile. Ah, formule de Newton. Oh, crocodile dit, moi, je ne connais pas ces choses. Moi, ce que je sais, c'est te croquer. Ça, je connais très bien. Donc, tout ça, Salomon dit, mais j'ai fait tout ça. J'ai connu la science, mais il s'est fait avoir quand même. Par les femmes. Salomon dit, j'étais non seulement roi, mais je me suis appliqué à la science et à la sagesse. On voit le médecin te sermonner pour te dire, tu dois arrêter avec l'huile. C'est ça qui te donne telle maladie. Tu dois arrêter avec la cigarette. C'est ça qui détruit les poumons. Il te montre la radio des poumons. À peine tu sors du cabinet, il allume sa cigarette à lui. Comment expliquer tout ça? Salomon dit, c'est ça le problème. Malgré la science, l'intelligence, tout ça, c'est poursuite du vent. On se souvient du temps où on était sans barbe, hein? Tu prends une photo, mais il n'y a pas la barbe. Mais quand on avait 8 ans, on pensait qu'on sera éternellement sans barbe. On prenait les adultes pour des extraterrestres. Comment sont ces humains avec des barbes? Comme un proverbe d'un pays dit, un cochonnet, il voit sa mère, il dit, mais comment tu as un museau aussi long? Comment? La mère a dit, petit, quand tu grandiras, tu comprendras. Voilà. Et finalement, le temps vient, on a la barbe maintenant. Tout est poursuite du vent. On entend un tel est mort à 70 ans, à 80 ans. Mais quand on voit les photos, de quand il avait 4 ans, 5 ans, c'est un enfant plein de vie. Et combien je suis triste dans les maisons de retraite, parce que nous faisons des concerts là-bas. Et hier encore, on était dans une maison de retraite. Voir tous ces gens-là qui ont été des docteurs, qui ont été peut-être des athlètes, qui ont été des basketteurs peut-être, des ingénieurs, être conduits comme un troupeau par les aides-soignantes. J'avais eu du mal à chanter hier, j'étais déprimé. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est comme des bébés. Dans un coin, il y en a, le jeudi, on était encore dans une maison de retraite, au moment du goûter, dans un coin, il y avait 4 aides-soignantes qui s'occupaient à donner à manger à 4 personnes. Peut-être c'était des anciens parlementaires, on ne sait pas. On se dit, mais une telle personne a travaillé 40 ans, a acheté une maison principale et une résidence secondaire, a payé les études de ses enfants, a tout fait pour que les enfants aient de quoi manger, s'habiller. Mais aujourd'hui, les mêmes enfants mettent cette personne, l'enferment dans cette maison-là, avec peut-être 2 visites tous les 3 mois. On se dit, mais finalement, la vie, c'est quoi? C'est déprimant. C'est pénible. D'où vient la vie et pourquoi? L'homme est fatigué par cette question. Mais c'est curieux quand on lit Romains 1 au chapitre 18. C'est curieux de voir ce qu'on va y voir. Romains chapitre 1, verset 18. Il est écrit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Mais pourquoi Dieu est en colère contre les hommes? Parce que Dieu, il sait qu'il s'est révélé aux hommes. Il sait que l'évidence de son existence est dans les cœurs des hommes. La déprime dont nous parlons est due au fait que l'homme par lui-même veut cerner Dieu. Il veut maîtriser Dieu. Mais sinon, la connaissance de Dieu est dans l'homme. Mais c'est l'homme qui refuse et qu'il veut lui-même bâtir sa connaissance de Dieu. Il ne veut pas accepter la connaissance de Dieu telle qu'elle s'expose à lui par la nature et par la conscience. Parce qu'ailleurs, on va dire que Dieu a mis sa loi dans le cœur de chaque homme, donc en lisant la suite de ce qu'on vient de lire. Il a dit, c'est à cause de ça que dans le monde entier, les gens sans s'être rencontrés ont presque les mêmes règles. Parce que la connaissance de la pureté de Dieu les conduit tous à mettre les règles. Tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme d'autrui, tu ne tueras pas. On retrouve ces mêmes règles partout dans le monde entier, même auprès des gens qui n'ont pas rencontré forcément Dieu. Après, il y a toujours des exceptions, il y a des aberrations, mais en général, c'est cela. Et il est écrit, Dieu plutôt est en colère contre les hommes parce que ils ont la version de Dieu de l'origine des choses, mais ils n'en veulent pas. La preuve, c'est quoi? La Bible commence par cette phrase. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Donc, Dieu ne s'explique pas parce qu'il considère que la nature suffit à montrer qui il est et sa présence, donc sa manifestation dans le cœur de l'homme suffit. L'homme le sait. Et Paul le dit aussi dans Actes 17. Il dit que Dieu a mis sa pensée dans tous les humains. Mais ce n'est pas clair à 100%. Mais la pensée de Dieu, la réalité de Dieu dans le cœur de chaque humain, sans être la totale connaissance. Il dit, c'est pourquoi à cause de ça, les hommes l'ont cherché à tâtons, dans Actes 17. Donc, chacun ayant la sensation de Dieu dans son cœur, cherche. Mais au lieu de chercher au bon endroit, il cherche par son intelligence, d'où la déprime. Quand on veut tout comprendre, par son intelligence, on tombe dans la dépression. Un enfant qui était bien portant hier, on apprend que sur le chemin de l'école, il a fait un accident, il est mort. Les gens qui ont perdu des enfants parce que des policiers les poursuivaient, ils sont morts. On se dit, mais il n'est pas le seul à faire ces bêtises-là. Pourquoi les autres ne sont pas morts? Ah, mais attentat dans tel endroit, ton enfant est mort. Mais pourquoi mon enfant? On va faire une mammographie quelque part, cancer de sein. Mais pourquoi moi? Tous ces questionnements ne trouvent comme réponse par l'intelligence humaine que la dépression. La dépression, la colère, la haine et le suicide. Parce que plus tu es dans la dépression, plus tu n'as pas de solution, plus tu t'enfonces encore, plus tu es dans la recherche des réponses, plus tu t'embêtes, plus tu t'enfonces. Et c'est la cigarette, c'est la cocaïne. C'est la magie. Après, on commence à chercher. On apprend que là-bas, il y a quelqu'un qui peut résoudre mon problème. On y va. Dans un cimetière, on y va. C'est comme ça que les gens tombent dans les travers parce qu'ils cherchent la solution par eux-mêmes. Or, la solution est là. C'est Dieu. Il dit, je suis. Au lieu de s'humilier pour dire, Dieu, je sais que tu existes. Aide-moi. Les gens disent, mais si. Les souffrances, donc je vais parler de deux points, les origines, l'origine des choses et les souffrances. Mais pourquoi les souffrances si Dieu existe? Pourquoi c'est ma mère qui est morte? Pourquoi c'est mon père? Parfois le père qui est mort là, pour lequel on crée des problèmes, il avait 85 ans, mais il y a des gens encore qui veulent créer des problèmes pour tout. Mais pourquoi? Mais il fallait qu'un jour tout le monde mourra. Mais les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi les souffrances? Pourquoi les guerres? Est-ce qu'on a déjà vu Dieu descendre et créer des guerres? C'est les humains qui créent des guerres entre eux à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté. Ces deux pourquoi-là créent des problèmes à beaucoup de gens et les empêchent de s'humilier et de dire « je suis limité ». C'est curieux que ceux qui prouvent les limites de l'homme le conduisent à se croire fort. Normalement, quand on n'arrive pas à résoudre un problème, on doit s'humilier. Mais l'homme n'arrive pas à résoudre le problème des origines. Il décide que Dieu n'existe pas. Comme quelqu'un qui aurait tout scruté, tout consulté pour décider ça. Bien-aimé, vous savez qu'il y a combien de galaxies? Il y en a des milliers et des milliers de galaxies. C'est ce que la science nous dit. Maintenant, nous, on est dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et dans cette galaxie-là, on a environ 10 milliards d'étoiles. Bon, imaginez que pour aller vers certaines étoiles de notre galaxie, il faut peut-être 10 milliards ou 10 millions d'années pour aller de la Terre à une étoile de notre galaxie. Dans certaines étoiles de notre galaxie, il faut 10 millions d'années. Donc 10 millions d'années à la vitesse de la lumière, pas à notre vitesse, parce que si c'était à notre vitesse d'avion ou de fusée, ça va être encore fois 1000. Rien qu'à la vitesse de la lumière, ça nous fait dans les 10 millions d'années au minimum, pour beaucoup d'étoiles. Imaginez que dans notre petitesse qu'on vient de découvrir là, on décide que Dieu n'existe pas. Voilà. Au lieu que cette petitesse-là qu'on découvre, comme quoi on est dans une galaxie qui est si grande que certaines étoiles se trouvent à 10 millions d'années de nous si on doit aller à la vitesse de la lumière, sachant qu'il y a, nous, on n'est qu'une galaxie parmi d'autres. On décide, alors qu'on n'a pas fait, on n'a pas fouillé toutes ces galaxies, on décide que Dieu n'existe pas. Donc normalement, les limites de l'homme devaient le conduire à s'humilier et à dire, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Non ! Alors qu'il ne réussit pas à comprendre les raisons de l'existence, comment l'existence est venue, et même où ça va, puisque les gens meurent et on ne sait pas, les humains avec leur intelligence ne savent pas où ils vont. Comment se fait-il que l'homme a une âme ? L'homme n'est pas que matériel. On n'arrive pas à comprendre ça par notre intelligence. Normalement, ça doit nous conduire à nous humilier et dire, mais nous sommes limités. Qui peut nous éclairer? Qui peut nous aider? Non, avec cette limitation, cette incapacité, nous décidons de rejeter Dieu. Mais vous ne voyez pas que c'est vraiment la folie? C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, l'insensé, le fou, dit, Dieu n'existe pas. L'insensé dit, Dieu n'existe pas, parce que dans sa petitesse, et si encore il ne s'était pas rendu compte de sa petitesse, on allait comprendre. Bon, si vous savez, comme autrefois, les hommes peut-être pensaient que tout se limitait à notre terre, vous savez, ils considéraient que quand vous arrivez à la ligne d'équateur, il y a un vide, vous tombez. Quoi. Mais on peut comprendre encore à cette époque-là que l'homme croit que c'est lui qui est Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme, avec l'intelligence, sait qu'il est tout petit dans l'univers. Déjà, la Terre a dans le système solaire, est l'une des planètes les plus petites. Et ensuite, le système solaire, c'est petit dans sa galaxie. Donc, normalement, l'homme devait se dire, oh là 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 là, tout est trop grand. Ça nous dépasse trop. Parce que s'il faut aller vers une certaine étoile, il faut 10 millions d'années. Moi, je ne vis que 120 ans. Donc, ça me dépasse. Si je dois attendre 10 millions d'années, je ne ferai même pas 1000 ans. Autant capituler et demander l'aide de celui qui a fait tout ça. Non, l'homme s'entête à dire, je vais découvrir. Tu vas découvrir quoi? Et beaucoup meurent sans avoir découvert. Et c'est ce qui va arriver. Pour tous. Tous ceux qui cherchent par leur intelligence mourront sans avoir découvert. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce que, comme a dit un enfant, vous savez, les Russes, quand ils ont envoyé Gagarine, Yuri Gagarine, c'est la première personne qui est partie dans l'espace. Et quand Gagarine est revenu de l'espace, comme à l'époque, l'Union soviétique était athée, officiellement, un état athée, donc on faisait passer Yuri Gagarine dans toutes les écoles pour dire aux enfants, j'ai été dans l'espace, je n'ai pas vu Dieu. Mais il a été que dans notre petit espace, là où on met les satellites. Il n'a même pas été jusqu'à la Lune. Donc j'ai été dans l'espace, je n'ai pas vu Dieu. Et un jour, comme Dieu vraiment existe, il est tombé sur quelqu'un qui avait vu Dieu. Un jour, il tombe dans une classe où il y avait l'enfant d'un chrétien. Et malheureusement pour lui, il recommence encore le discours. L'enfant lève la main et dit, « Monsieur, je sais pourquoi vous n'avez pas vu Dieu. »« Ah bon? Pourquoi je n'ai pas vu Dieu ?» Parce qu'il est écrit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voilà. Dieu, on le voit quand on a un cœur pur. Ce n'est pas en allant dans l'espace. Parce que l'espace est infini. Donc même si tu utilises un vaisseau qui va à la vitesse de la lumière, il te faut 10 millions d'années. Et là, je suis gentil. Hein. Il y a des étoiles, pour y arriver, il faut 13 milliards d'années. Vous imaginez, tellement c'est loin. Il faut 13 milliards d'années. À la vitesse de la lumière, je dis bien. À la vitesse de la lumière. Nous, notre vitesse est très très faible. La lumière, c'est 300 000 mètres par seconde. Voilà, 300 000 mètres par seconde. Donc, vous vous imaginez combien c'est rapide. Et ces gens-là, dans leur faiblesse, ils décident que Dieu n'existe pas. Et aujourd'hui, toi aussi, dans ta faiblesse, tu te rends compte que ça ne marche pas dans ta vie. Tu te rends compte que tu n'es pas heureux. Mais au lieu de dire, mais si je ne suis pas heureux, c'est que j'ai échoué, qui peut m'aider? Tu décides que Dieu n'existe pas. Tu décides d'aller voir un féticheur. Tu décides de prendre de la cocaïne, de la cigarette, parce que tu ne te sens pas bien. Humilie-toi. Tu décides de divorcer parce que tu ne te sens pas bien. Humilie-toi. Cherche Dieu. Puisque tu sens la puissance du péché en toi, il y en a qui disent c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je dois fumer. C'est plus fort que moi. Je dois faire des pratiques sexuelles. Mais quand tu constates que c'est plus fort que toi, mais cherche un plus fort que c'est plus fort là. Cherche-le. Dis, mais qui peut m'aider? Qui est plus fort que ce que je sens là? Et vous savez, c'est écrit dans la Bible, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Quand tu cries dans ton cœur, c'est plus fort que moi. Le monsieur qui est là-haut, il a entendu, il a compris. Voilà un cœur qui vient de s'humilier. Je peux maintenant me révéler à lui. Car il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux va pointer un fusil vers Dieu pour dire, ah ben tu n'existes pas, sinon je ne serais pas dans telle situation. Mais l'humble dit, je suis fini, qui peut m'aider? Voilà. Parce que dans le cœur de chacun, il y a la sensation de l'existence de Dieu. Vous savez, Dieu ne se défend pas. Quand on était jeune chrétien, on a essayé de défendre l'existence de Dieu dans des discussions, dans des débats. Non. Aujourd'hui, nous avons compris que Dieu existe. En cherchant à le défendre, c'est comme s'il n'existait pas. Lui-même, il se défend parce qu'il est vivant. C'est ça ma réponse. C'est ça la réponse de la Bible. Au commencement, Dieu. Dieu, il se considère comme évident. Il est présent, il est vivant. Paul dit dans Actes 17, les gens le cherchaient à tâtons alors qu'il est près de chacun. Il est près de chacun. Mais on ne le voit pas parce qu'on est orgueilleux. Il faut s'humilier pour le réaliser. On ne le voit pas parce qu'au lieu que nos faiblesses nous conduisent à reconnaître qu'on a échoué, on veut lutter pour dire qu'on a réussi quand même. Aujourd'hui, c'est vrai, nous prions pour que Dieu sauve les gens. Nous évangélisons, mais pas avec le même découragement qu'autrefois. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que Dieu existe et qu'il se révèle à tout homme qui a le cœur humble. Aujourd'hui, on est tranquille. Pendant qu'on évangélise, on ne veut convaincre personne, on veut s'imposer sur personne. Nous, on ne fait que parler. Et Dieu lui-même va parler dans le cœur. Dieu lui-même va se révéler aux gens parce qu'il les aime. Il est écrit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il nous aime. Il est rempli d'amour. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et on en est conscient aujourd'hui. Et c'est pourquoi, avec force, nous disons que Dieu existe. Et il veut te sauver. Et certains chrétiens servent Dieu dans la religion en se disant, mais je ne suis pas agréable, je ne suis pas agréable, je ne suis pas au niveau de Dieu. Ils cherchent Dieu par leurs efforts. Je te dis, ce n'est pas la peine. Le Fils de Dieu est mort pour toi à la croix. Il a tout accompli pour toi. Vis avec cette foi-là en lui, car le juste vivra par la foi. Abandonne-toi à lui. Dieu existe. L'homme est ingrat. L'homme est malhonnête. L'honnêteté devait le conduire à dire « j'ai échoué ». À la croix, il y avait deux voleurs. Comme quoi, parmi les voleurs, il y a des honnêtes et des malhonnêtes quand même. On va dire, mais comment un voleur peut être honnête? Oui, on va voir. Le voleur honnête, c'est celui qui vole, il sait qu'il est mauvais. Mais le voleur malhonnête, il vole, il dit, mais oh, moi aussi on m'a volé autrefois, je me venge. Il est malhonnête, il dit, mais certains appellent même ça un impôt. Je prends l'impôt chez les gens. Le voleur malhonnête, il y avait deux voleurs. Il y a un qui commence à blâmer Jésus. Les deux mêmes ont blâmé Jésus. Ah, ben c'est n'importe quoi tes histoires de fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, sauve-nous alors. Jésus n'a pas répondu. Mais il y a le voleur qui était humble dans son cœur. Vous savez, la réalité c'est le cœur chez l'homme. Ce n'est pas l'apparence, c'est le cœur. Il y a des gens qui peuvent taper, mais ils sont des doux dans le cœur. Mais ils tapent parce qu'ils ont vu que tout le monde tapait, eux aussi tapent. Ils tapent parce qu'ils ont pris l'alcool. Ils tapent parce qu'ils se sentent faibles. C'est leur moyen d'exprimer qu'ils sont forts. Mais il suffit qu'ils connaissent la vérité. Ils changent de vie. Et cet homme-là s'est humilié. Il a dit, mais c'est nous qui avons, nous avons échoué. Il a dit à l'autre voleur, regarde, nous nous retrouvons tous à la croix. Mais le problème, c'est que nous nous retrouvons par échec à cause de notre comportement. Nous avons volé, nous avons truandé. On se retrouve crucifié. C'est notre condamnation juste. Mais le monsieur qui est au milieu de nous, lui n'a rien fait de tout cela. Mais pourquoi il se retrouve à la croix? Il y a une raison que je ne comprends pas. Mais dans cette humilité-là, Dieu lui donne la raison. C'est pourquoi il s'écrit, quand il reçoit la raison de la part de Dieu, « Jésus, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Donc, il a compris que celui qui était à côté, c'était vraiment le Fils de Dieu. Même s'il est crucifié, il y a une raison que Dieu vient de me donner. Là, c'est le Fils de Dieu. Jésus, quand tu reviendras dans ton règne, prends-moi avec toi. Jésus dit, mais ce n'est pas plus tard. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Vous savez, quand Jésus parle à Nicodème, il dit à Nicodème, nous vous parlons des choses qu'on a vues. Jésus est celui que Dieu a envoyé pour nous rendre Dieu clair. Parce qu'il a vu Dieu. Il était avec lui et il est Dieu. Il vient, il dit à Nicodème, Nicodème, vous prêchez. Parce que Nicodème, c'était un docteur de la loi. Il dit, Nicodème, vous prêchez parce que vous avez lu quelque part. Mais moi, je parle des choses que j'ai vues. C'est mon papa, Dieu. Bien-aimé. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 8, 36, si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Il dit, moi, je parle des choses que j'ai vues. Je parle de notre maison. Vous avez lu les Champs-Élysées. Dans Paris Match, vous avez regardé les photos. Mais moi, j'ai une chambre là-bas. Je connais la cuisine. Donc vous, les journalistes, vous commentez des choses que le photographe vous a données comme photos. Mais moi, c'est chez moi. Il dit, Nicodème, tu parles des choses, tu es un docteur, mais tu parles des choses que tu as lues. Hein. C'est Moïse qui a écrit. Mais moi, je te parle des choses que j'ai vues. Je viens de là-bas. Voilà le messager de Dieu qui est venu nous expliquer qui est Dieu. Vous comprenez pourquoi qui refuse Jésus se retrouve dans des problèmes graves? Parce que Dieu est venu en homme nous expliquer qui il était. D'où venaient les choses? Où ça va? Maintenant, si tu ne saisis pas, c'est pourquoi c'est écrit. C'est une chose grave de fouler aux pieds la grâce de Dieu qui est venue par Jésus. Il est venu tout nous éclairer. Mais quelqu'un peut douter, mais pourquoi il est le Fils de Dieu? Mais pourquoi il est le Créateur? Quand Jésus était vivant, il a multiplié le pain. Il a ressuscité les morts. Il a dit à la tempête, silence, tais-toi. Il a montré que le Créateur que vous cherchez, c'est moi. Je peux dire à la tempête, silence, tais-toi. Il a montré que le Dieu pur que vous cherchez, c'est moi. Parce que je vis, je ne pêche pas. Je suis l'envoyé de Dieu. Écoutez, ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vues. Je viens de là. Aujourd'hui, tu as des questions que tu pensais être sans réponse. Mais la réponse, c'est que Dieu existe. c'est à toi de t'humilier. Humilie-toi pour lui demander son aide, qu'il se rende clair à toi. La réponse, je te la donne encore là maintenant. Dieu est vivant. Ce n'est pas une question de polémique. Je ne veux pas prendre 5 heures à expliquer ça. Il est vivant. Si tu t'humilies, tu reconnais que tu as perdu. Comme ce voleur à la croix. Il y a un autre qui était à la croix qui polémiquait. Mais l'autre, il a dit, mais je vais polémiquer alors que je suis crucifié quand même. Soyons sérieux, c'est ça. Tu vas polémiquer alors que... Vous savez, quand tu dis que Dieu n'existe pas, mais nous, on croit que Dieu existe. Nos enfants croient. Et d'autres encore plus petits que nos enfants croient. Un jour, toi, tu mourras, moi, je mourrai. Toi, tu meurs, mais la foi en Dieu continuera toujours. Ceux qui ont dit dans les années 1400 que Dieu n'existait pas, sont confondus, ils sont morts, mais Dieu, nous continuons toujours à croire en Dieu. Ceux qui ont dit dans les années 1800 que Dieu n'existait pas, Voltaire a dit que Dieu n'existait pas, et que dans 200 ans, la Bible allait devenir un vieux manuel qu'on trouve dans, poussiéreux qu'on trouve dans les tiroirs, caché quelque part. Mais 200 ans plus tard, sa propre maison est devenue une maison d'édition de Bible. Il est mort, mais la foi en Dieu a continué. Parce que, pourquoi la foi en Dieu continue? Puisque Dieu existe. L'explication est simple. Il existe, c'est pourquoi les gens continuent à croire. Mais toi, Voltaire, ta philosophie est morte, c'est pourquoi tu es mort aussi. C'est ça la réalité. Soyons humbles pour reconnaître qu'on est petit. Et en reconnaissant qu'on est petit, Dieu va se révéler à nous. Dieu est vivant. Il existe. L'homme ne peut pas atteindre par sa propre intelligence. Il y a une dame qui était musulmane, une iranienne. Vous savez, dans l'islam, il y a des rites d'ablution, de lavage, pour prier en même temps. Avant certaines prières, on se lave les mains, on se lave, voilà. Je crois un peu le visage peut-être aussi. Et son problème à elle, c'était qu'elle avait l'impression qu'elle ne s'est pas bien lavée. Donc parfois, elle recommençait à se laver 11 fois avant une prière parce qu'elle n'avait pas confiance au premier nettoyage. Et bien sûr, vous savez là où ça l'a conduit. Grand maître dépression l'a saisi. C'était la dépression. Parce que tu veux prier, tu te laves. Ah, mais est-ce que je me suis bien lavé? Tu recommences encore. Finalement, elle est tombée dans la dépression. Elle a cherché l'aide d'Allah, il n'a pas eu. Elle dit, mais comment faire alors pour être bien avec Dieu? Je me sens sale. Mais en même temps, je ne sais pas quoi faire. Elle a décidé de se suicider. Elle a dit, ça ne sert à rien de vivre. Parce que même quand on cherche Dieu, c'est compliqué. Sans Dieu, c'est compliqué. Avec Dieu, c'est compliqué. Je me suicide. L'existence, ça ne vaut rien. Elle dit à sa mère, or sa mère était malade, elle était pratiquement incapable de se lever. Elle dit à sa mère, je compte me suicider. La maman dit, quand tu vas te suicider, tu me tues d'abord et puis tu te suicides après. Parce que moi aussi, j'en ai marre. Mais, ces deux personnes-là en avaient marre et leur orgueil les a conduits à vouloir se suicider. Mais je vous dis que Dieu existe et Dieu veut sauver tout le monde. La veille du suicide, le jour précédent, elles allument la télé. C'est un programme d'émission chrétienne. Et le prédicateur qui était devant dit que je sais que tu veux te faire du mal, mais est-ce que tu as déjà parlé à Dieu? Posez la question à Dieu, est-ce qu'il peut intervenir? Pourquoi tu veux te faire du mal? Comme certains. Tu veux faire un péché, mais est-ce que tu as déjà demandé, tu as encore demandé l'aide de Dieu? Est-ce que tu as demandé l'aide de Dieu? Et le prédicateur parlait à la télévision comme ça. Il y en a qui veulent se faire du mal. Il y en a qui sont dans la dépression, dans la colère. Mais est-ce que vous avez parlé avec Dieu de votre problème? Et il y avait un téléphone. La maman prend le téléphone. Elle appelle le prédicateur. Le prédicateur lui parle. elle se convertit au téléphone. Elle accepte Jésus au téléphone. Et il dit, mais je te passe ma fille. La fille dit, quoi? Jésus, c'est quoi? Toi-même, tu sais, Jésus, c'est rien. C'est nul. C'est l'islam qui est la vraie religion. Mais oui, mais si l'islam est la vraie, pourquoi tu ne restes pas? Tu veux te suicider. La maman dit, ma fille, mais prends, écoute seulement ce monsieur. Elle n'a pas voulu. Et la maman a pleuré, a laissé le téléphone sans raccrocher. La fille va prendre le téléphone pour crier sur le monsieur. Et elle parle avec le monsieur. Elle refuse l'aide. Elle dit, non, moi je veux me suicider. Je refuse de t'écouter. De toute façon, Jésus, c'est rien du tout. Le lendemain, le jour du suicide, elle se lève. Elle va au salon. Elle voit la maman marcher, faire les choses de la maison. Elle dit, mais comment? Tu marches? Elle dit, mais oui, je marche. Ah non, on va à l'hôpital vérifier tout ça. Et donc, elle prend la maman, elle va à l'hôpital. Le médecin dit, mais c'est un miracle, tout est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a plus, je crois, elle devait avoir un cancer généralisé. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel imam vous avez prié? Là, ce n'est pas la maman qui répond. Hein. La fille dit, ce n'est pas un imam. Mais c'est qui alors? Ben, c'est Jésus. Alors, elle dit que au moment où j'ai dit, mais c'est Jésus qui a fait tout ça, Jésus m'a rempli de sa paix. Bien-aimé, nous n'avons pas le temps de polémique. Jésus est vivant. Et il va montrer cela à celui qui est humble. À partir de ce jour-là, il s'est converti. Alors, pourquoi toi, tu veux discuter, polémiquer? Jésus est né sans père. Parce que c'était le miracle du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Il a vécu sans péché. Il a dit à la tempête, calme-toi. La tempête s'est arrêtée. Il a donné la vue aux aveugles. Il a donné la vue aux aveugles spirituels que nous étions. Nous voyons maintenant clair. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Vous allez remarquer, bien-aimés, que les gens qui nient l'existence de Dieu sont en même temps dans une moralité dissolue. Ça va toujours ensemble. Les gens qui nient l'existence de Dieu, ce sont les gens qui encouragent l'homosexualité. Ce sont les gens qui encouragent la pédophilie. Ce sont les mêmes qui encouragent la pornographie, l'inceste. Parce que comme Dieu n'existe pas, il n'y a pas de règles. Allez, on y va. On n'est que de matière. Comme hein, les bijoux, comme les atomes, les Lego. Alors on fait ce qu'on veut. Ça va ensemble. La conscience de Dieu et la conscience morale, ça va ensemble. Même si la conscience morale n'est pas égale à la conscience de Dieu, mais c'est lié. Jésus est maintenant venu au-dessus de tout ça, nous révéler Dieu clairement parce qu'il a fait tout ce que Dieu fait. Il a créé. Il a commandé à la nature. Et il a montré qu'il était Dieu. En s'humiliant jusqu'à mourir pour nous à la croix. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est la seule personne qui dit qu'il t'aime. Jésus te dit qu'il t'aime. Et il ne tient pas compte de ta vie passée. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il dit que par ses meurtrissures à la croix, tu peux être guéri. Tu peux être guéri. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi contester avec celui qui a donné sa vie pour toi? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Pourquoi traîner comme ça à donner sa vie à Jésus? Pourquoi les magouilles? Pourquoi l'escroquerie? Alors que le Dieu vivant veut être ton compagnon de vie, marcher avec toi. Ce qui t'éloigne de Dieu, tu dis, mais oui, je suis faible. Oui, le péché est en train de me déranger. J'aime trop le péché. Mais si tu demandes l'aide de Dieu, tu rencontreras la personne qui est plus forte que le péché. Jésus dit dans Jean 16, 33, ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Le péché qui semble te donner l'impression d'être ton maître, Jésus est plus fort que ça. Ne prends pas la mauvaise décision. Prends la bonne décision que le voleur à la croix a prise. Alors que Jésus était crucifié, il a compris quand même que c'était le Fils de Dieu. Il n'a pas tenu compte. C'est peut-être toi, tu nous compares, tu dis, mais oui, on est petit en nombre. Mais, tel bâtiment, dans les stades, ils sont remplis à suivre les footballeurs. Mais c'est la fin qui montrera qui a suivi le bon endroit. Qui a suivi le bon chemin. Le voleur à la croix, il a dit, oh, j'ai vu que tu étais le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu reviendras aujourd'hui. C'est pourquoi je n'insiste pas. Je sais que Jésus a parlé, t'a parlé, et tu sais qu'il est le Fils de Dieu. Tu sais qu'il t'aime. Il est venu pour te sauver. Tu sais qu'il est plus fort que le péché parce qu'il a vaincu le péché. Maintenant que tu le sais, sors de ta mauvaise voie. Sors de ta mauvaise voie et demande son aide. Chrétien qui sait maintenant qui est Jésus, arrête de pleurer, arrête de te rebeller, viens servir l'Éternel. Parce que beaucoup de rébellions sont dues au fait que on croit des lèvres, mais on ne sert pas Dieu. On croit des lèvres, mais on ne s'engage pas. Et notre foi meurt. Celui qui croit vraiment va s'engager pour la cause de Jésus, par amour pour lui. Parce qu'il est reconnaissant de ce que Jésus a fait pour lui. Nous appelons tous ceux qui hésitaient, tous ceux qui étaient dans la rébellion, tous ceux qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il existe et qu'il t'aime. Il veut te sauver. La preuve, c'est son fils Jésus, qui a montré clairement qui était Dieu et qui est a été crucifié pour nos péchés à la croix. Viens, Dieu t'appelle au salut, au nom de Jésus. Viens, ô Père qui t'appelle, ô reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, aujourd'hui, viens à lui. Ne prends pas la mauvaise décision.
Ah, pourquoi t'adorerais-tu?
Aujourd'hui,
aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut.
Alors nous appelons les gens qui veulent se donner à Jésus, comme cette Iranienne-là. Vous savez, j'ai encore une autre histoire, mais c'est une famille musulmane aussi qui souffrait des apparitions démoniaques dans la famille. Le monsieur disait, on était habitué aux esprits, il se manifestait, il nous faisait peur. Mais un jour, il y a un esprit qui s'est révélé à leur jeune frère de 6 ans. Mais ça, c'était maintenant un autre esprit. C'était Jésus de Nazareth. Il dit au petit de 6 ans, ne t'inquiète pas. Oh, pour une fois, le petit expérimenté, un esprit qui lui apportait la paix. Il dit au petit de 6 ans, ne t'inquiète pas, occupe-toi de ta maman, c'est tout. Quelque temps après, le petit tombe malade gravement. Il apparaît encore au petit, dit, je te guéris. Et cet enfant était guéri. Grâce à lui, toute sa famille est venue à Jésus. Jésus est vivant. Donc nous t'appelons à entrer en rencontre, en relation avec lui aujourd'hui. N'aie pas honte de qui que ce soit. Si tu as reçu l'appel de Dieu dans ton cœur, tu passes devant, nous allons prier ensemble pour que tu reçoives Jésus dans ton cœur. Tu appartiens à Dieu aujourd'hui. Viens, ô Père,
qui t'appelle, ô reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon.
Aujourd'hui,
aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi t'adorerais-tu?
Et aujourd'hui,
aujourd'hui, salue.
Et aujourd'hui,
aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu?
Aujourd'hui,
aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Trop longtemps dans la misère, tu vécus sans vrai bonheur. Se peut-il que tu préfères fuir encore loin du Sauveur?
Et aujourd'hui,
aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu?
Aujourd'hui,
aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut.
À ton âme,
à ton âme est angoissée. En vain tu cherches à la paix. Par sa croix qui fut dressée, Christ l'a donné pour jamais.
Et aujourd'hui,
aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu?
Aujourd'hui,
viens à lui. Viens, reçois son grand salut.
Vous allez dire comme moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu m'aimes, que tu as donné ta vie pour moi. Aide-moi aujourd'hui à venir à toi. Sauve-moi et libère-moi des doutes, de l'inquiétude, des raisonnements qui m'ont éloigné de toi. Jésus, je t'invoque et sauve-moi. Merci Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Seigneur, que ton salut, que la nouvelle création se manifeste dans la vie de mes bien-aimés maintenant. Qu'ils entrent dans une nouvelle vie avec une intelligence renouvelée. Une intelligence qui dépend de ta parole, qui dépend du Saint-Esprit et non de la logique humaine. Et que tout ce qui était lien de péché soit brisé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de les transformer à ton image parfaite pour qu'ils te servent dans toute la vérité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta
sauve,
il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi.
Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on s'abandonne au mal sous prétexte qu'on n'a pas la capacité de vaincre par nous-mêmes le mal.
Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un mauvais raisonnement que de dire, puisque le mal est sur la terre, je m'abandonne. Que ça me détruise. C'est ça. Non, le vrai raisonnement, c'est de dire, Dieu, si tu existes, viens à mon secours. Aide-moi. Beaucoup sont transformés en juges de Dieu, critiquant Dieu pour ceci, critiquant Dieu pour cela. Mais après, quand tu as critiqué Dieu, tu as gagné quoi? Est-ce que tu es devenu plus fort qu'avant? Est-ce que tu es devenu plus riche qu'avant? Non, là, ta dépression ne peut qu'augmenter et ta fuite dans les plaisirs du monde va être sans fin. Aujourd'hui, donne-toi à Jésus. C'est ce que Dieu te demande. Merci Seigneur de convaincre les cœurs que tu es Dieu et que l'homme n'a pas besoin de rester dans la défaite du péché, dans la déchéance, mais que nous avons besoin de nous livrer à toi pour que tu t'occupes de nous. Car tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Nous nous attendons à toi Seigneur, toi qui remplis de cœur, nos cœurs de joie. Béni soit ton nom Seigneur. Au nom de Jésus Papa, nous t'accueillons au milieu de nous. Alléluia.